Bonjour à tous. Plus on en avance, plus on oublie les choses. J'avais pas passé ma clé à Philippe. Oh, c'est une clé où il y a juste le texte hein, dessus. Vous savez où nous sommes ? Dans Néhémie 6. On suit. Je vais juste vous lire, parce que j'ai bien aimé la présidence de David et de Anne. Et il y a un passage qui m'est très cher, qui ressemble à ça, qui est dans Éphésiens. Alors, Éphésiens en parle beaucoup, dans le chapitre 2. Il dit « Souvenez-vous que vous étiez, en ce temps-là, sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Et moi qui n'ai pas eu de famille, un des versets qui m'a touché le plus dans la Bible, c'est celui-ci, c'est le verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des siens, des saints, pardon, gens de la maison de Dieu. » Nous avons un foyer, nous avons une maison, c'est la maison de Dieu. Merci de m'avoir rappelé. Alors, nous allons aller, on va rester dans notre réflexion. Aujourd'hui, nous sommes dans Néhémie 6. Si je le retrouve, voilà, il n'a pas changé. Alors, Néhémie 6, c'est un bon chapitre. C'est un bon chapitre, mais en même temps, c'est un chapitre qui nous dit des choses très intéressantes. Alors, nous avons vu trois sortes d'opposition. Néhémie, comme on a dit, est un homme qui a une mission. C'est un homme qui est chargé par Dieu de faire quelque chose de précis. Il en a la conviction, il en a les moyens. Son roi de l'époque est très puissant, Artaxerxès, lui a donné les moyens. Il est venu avec des lettres pour tous ceux qui sont autour. Il est gouverneur de Juda. Donc, c'est pas n'importe qui, il a ce qu'il faut. Mais malgré ça, nous voyons qu'il a eu des oppositions. Trois sortes d'oppositions. En premier, la raillerie. Néhémie y oppose la prière. En second, le découragement. Néhémie y oppose la foi et la cupidité. Néhémie y oppose la restitution. Aujourd'hui, pour finir, c'est la ruse. C'est la ruse. Néhémie y opposera la fermeté. Alors, je vais te demander comme la dernière fois, tu fais avancer. Vas-y. Voilà. Donc aujourd'hui, le chapitre 6, mission accomplie. Nous allons voir aujourd'hui qu'avec Dieu, tout peut changer. Il a fallu, nous allons voir au verset 15, 52 jours pour reconstruire la muraille. C'est incroyable. Quand on voit le travail qu'il y avait, immense, c'était un chantier colossal. 52 jours. 52 jours avec les gens qui riaient autour en disant comme ça, regardez, ils ne vont jamais y arriver. Vous vous rendez compte ce qu'ils sont en train d'entreprendre? Un renard va passer, il va faire tomber la muraille. 52 jours que Néhémie va encourager ses troupes. 52 jours que Néhémie va dire de ses troupes se arment, un qui surveille, l'autre qui construit. Néhémie va mettre les uns à côté des autres, il va former un peuple. Ce peuple qui était complètement dispersé, qui ne savait plus comment il s'appelait, qui avait pratiquement perdu son identité. Néhémie va lui rendre son identité. Il va en faire un peuple, le peuple de Dieu. 52 jours. Alors je commence par poser une question en ce jour d'Assemblée Générale, ça tombe bien. Combien à nous faudra-t-il de temps pour repartir avec Jésus dans la joie retrouvée, poussée par le Saint-Esprit? C'est une bonne question. Nous avons dans Néhémie 6 des actions de l'adversaire. Alors, on va lire les versets un petit peu plus loin. On a là, voilà, la construction est finie. Et nous arrivons ici, les versets de 1 à 4. Avant, je vais prier si vous voulez bien. Seigneur mon Dieu, je voudrais te remercier. Ce matin, on a entendu beaucoup de choses. Parce que c'est tellement important ce qui nous est dit dans la Bible sur la réalité de notre existence spirituelle, de cette nouvelle naissance. C'est pas trop mon propos à moi ce matin, mais ça m'a touché. Ça m'a touché de savoir que nous sommes un peuple, le peuple de Dieu. ton peuple. Seigneur, merci d'être toujours là, veillant sur nous. Nous savons que quoi qu'il puisse se passer, rien n'est au-delà de ta main. Rien ne peut être fait sans ton accord. Et tout concourt à notre bien. Seigneur, merci de ces certitudes. Ce qui est important, c'est ça. C'est que le jour où nous devenons enfants de Dieu, nouvelle création, ton esprit vient attester en nous et nous avons des certitudes. Nous sommes sûrs de ce qui s'est fait. Alors c'est vrai que ça ne se voit pas, c'est vrai que beaucoup de gens rigolent autour de nous, mais nous ne rigolons pas, parce que nous sommes heureux de te connaître. Nous sommes heureux que tu aies fait ta demeure dans notre cœur. Nous sommes heureux que tu nous aies laissé ta parole pour comprendre effectivement tout ce mécanisme, toute cette réalité que ton esprit fait en nous jour après jour. Nous sommes heureux enfin, Seigneur, de savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Tout ce qui nous est raconté autour, ce sont des fadaises, ce sont des mensonges. Nous, nous connaissons le Dieu qui a créé toutes choses, le Père éternel. Et ce Père éternel nous aime, nous personnellement. Aujourd'hui, nous voulons penser à cette réalité, que si ce peuple juif a pu reconstruire les murailles, c'est parce que Néhémie leur a rappelé combien tu les aimais, combien tu étais avec eux, et qu'ils n'avaient rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Alors Seigneur, nous te bénissons, bénis ta parole ce matin, bénis ces instants que nous puissions véritablement recevoir ce que toi tu as préparé pour chacun d'entre nous. Et nous remettons cette journée aussi d'Assemblée Générale, que tu la guides pour que nous soyons unis aussi en tant que corps spirituel pour gérer ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous lisons les versets 1 à 4. Je n'avais pas encore posé les battants des portes, donc j'avais pas fini, hein, lorsque Sambala, Tobija, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire « Viens, et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messages avec cette réponse. « J'ai un grand ouvrage à terminer, à exécuter. Je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. » Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. 4 fois, c'est pas rien. Ils avaient vraiment envie de le faire sortir de la ville. Néhémie découvrit la tromperie des Samaritains et leur dit « J'ai un grand ouvrage à exécuter. Pourquoi l'ouvrage serait interrompu pour discuter avec vous ?» Et bien sûr, ils sont revenus 4 fois. Ayant été repoussés, les ennemis de Néhémie se livrèrent à une grande stratégie dans les versets 5 à 9. C'est une insinuation indirecte. Lisons, 5 à 9. Sambala m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur, qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations et Gachum affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille, tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer Jérusalem, roi de Juda, à Jérusalem, pardon, et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons ensemble. Viens. » Je fis répondre à Sambala, « Ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'invente. » Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, « Ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Donc, ayant été repoussés, ils inventent une nouvelle stratégie. Face à l'intrigue, la bonne réponse consiste à nier ces accusations et à prier. Et maintenant, dans la Bible, il dit « Maintenant, mon Dieu, fortifie-moi ». Nous retrouvons le fil conducteur. Vous savez, ce fameux fil conducteur, tout au long des chapitres, où chaque fois qu'il se passe quelque chose, Néhémie dit simplement « « Ô mon Dieu, regarde, fortifie-moi, maintenant. » Et maintenant, dit Néhémie, c'est aujourd'hui qu'il faut changer. Nous vivons dans deux mondes. Ça paraît bizarre. Et on a parfois tendance à l'oublier. Comme Néhémie, nous nous trouvons dans un monde païen, hein, confronté à toutes les choses, et nous pouvons aussi jouir des biens de ce monde. Nous pouvons suivre la parole de Dieu et laisser Dieu, par son esprit, produire en nous la vérité par la prudence, la justice, la tempérance et le courage comme Néhémie. Deux possibilités, deux mondes. Nous sommes une nouvelle création, ce qu'on nous a dit ce matin. Nous sommes le peuple de Dieu et nous vivons par son esprit avec lui. Voyons maintenant comment mettre en pratique les versets 10 à 14. Merci. Dans les versets 10 à 14, Néhémie dit « Je me rendis chez Shemaïa, fils de Delaja, fils de Mehétabel. Ils étaient enfermés et il dit « Allons ensemble dans la maison de Dieu. » Alors là, c'est un de ses frères. Regardez comme le malin est rusé. Il dit « Allons dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons la porte du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Je répondis « Un homme comme moi prendre la fuite ? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre ? Je n'entrerai point. » Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisait ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija, de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Naodia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Vous voyez comme le diable est rusé. Cinq fois, il va essayer d'appeler Néhémie à le faire sortir. Il n'y arrive pas. Bien, il soudoie un des responsables du temple pour lui faire commettre un péché. Parce que bien sûr, aucun laïc ne pouvait rentrer dans le lieu saint. C'était un péché. Donc là, de le faire rentrer dans cet endroit-là, puisque dans le lieu saint, vous savez, il n'y avait que le sacrificateur, une fois par an, qui pouvait y rentrer pour faire ce qu'il avait à faire. Mais personne d'autre ne pouvait y rentrer. Notez la réaction de Néhémie au verset 11. « Un gouverneur comme moi prendre la fuite. » Et au verset 13, « Ils espéraient me faire peur pour que je commette un péché. » Vous voyez, souvent, il y a des atteintes à notre personne pour nous faire peur. Je ne sais pas si vous avez peur, mais moi je suis un peureux constant de toutes les choses qui se passent autour de moi. Et heureusement que j'ai la prière et que j'ai Dieu pour pouvoir me rappeler à la réalité. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Heureusement qu'il y a cette réalité. Et Néhémie de dire comme ça, ils avaient « Souviens-toi, ô mon Dieu !» et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Néhémie conclut ce passage par ce verset justement, « Mon Dieu, souviens-toi ». Néhémie ne lâche pas son fil conducteur. Fil conducteur qui est, souvenez-vous-en, Dieu d'abord. Paf, par terre. Néhémie se réfugie dans la prière et ses adversaires sont placés devant un nouvel échec. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mal jugé Néhémie. Ils ont commis l'erreur de le juger suivant leurs propres critères, critères du monde. Ils ont sous-estimé sa foi pratique et active. Et mes amis, le résultat, malgré toutes ces oppositions en 52 jours, un record pour un ouvrage, cette réalité, on peut passer, justement, on va lire. Voilà, les versets 15, on lit « En 52 jours, jugé pratiquement impossible à réaliser, devant cette réalité, ses adversaires éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent au verset 16 que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. » Je lis les versets 15 à 19, c'est ça j'ai mis ? Non, 15 et 17, ok. « La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul, en 52 jours. Lorsque tous les ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Et vous voyez, nous ne mésestimons pas toutes les attaques qui ont été faites contre Néhémie. Elles étaient, mais véritablement, là c'est facile de les lire comme ça. Imaginez où ils se trouvent. C'était terrible. Ils l'ont menacé de mort, ils lui ont tout fait, ils ont tout envoyé. Vous voyez, ils vont jusqu'à essayer de le séduire par sa propre famille, pour l'emmener à commettre l'irréparable. Donc c'est pas rien. Mais le résultat, il est en rapport de tout ça. C'est que ils furent humiliés, et le texte nous dit comme ça, ils furent dans la crainte. Eh oui, 52 jours pour faire une chose dont ils savaient que c'était impossible à faire. Je continue. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda, qui adressaient fréquemment des lettres. Oui, là on passe le truc d'après. J'ai oublié le 17. Ben non, le 17, il y a. Ah d'accord. Non, mais c'est bon. On va y arriver. Si vous m'aidez, je pense qu'on va y arriver. Il y avait aussi donc des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'ils avaient gendre de Shekania, fils d'Arak, et que son fils Jocanan avait pris la fille de Meshulcham, fils de Béréka. Alors c'était un mélange, les noms ne nous disent rien, mais c'était un mélange de païens, des gens qui étaient tout autour, qui étaient donc les ennemis d'Israël, et qui s'étaient liés par des histoires d'argent, donc c'était des nobles, etc. et tout, et il y avait une énorme influence. Ce qui veut dire que c'est pas parce que on avait fini et en 52 jours que les méchancetés allaient s'arrêter. Tout au contraire. Nous le verrons dans les chapitres qui suivent que c'est justement à cause de ça qu'il va y avoir. Il disait même du bien, verset 19, de lui en ma présence et il lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Vous voyez, ça continuait. On était bien dans le suivi. La fin du chapitre nous révèle que les épreuves ne vont pas s'arrêter, au contraire. Nous y voyons une note de réalisme de l'opposition continuelle de l'adversaire. C'est valable pour nous. Nous sommes avertis qu'il n'arrêtera jamais. Ainsi, après toutes les épreuves que Néhémie a traversées, sa confiance est toujours dans le Seigneur. Cela nous montre qu'après avoir vaincu, il faut rester vigilant. Quand ça va bien, il faut faire attention, parce que c'est là qu'on est faible. Sa réussite découle de trois facteurs. Alors maintenant, on va arrêter un tout petit peu. C'est pour ça que j'ai fait attention au temps, pour trop perdre sur le texte. Ce texte est fabuleux parce qu'il nous montre que, voilà, Néhémie a gagné. Avec son peuple, il a gagné. Mais Néhémie a gagné deux fois. Il a réussi la muraille, mais il a réussi à former une unité dans le peuple. Et c'est ça qui est important. La réussite que les autres craignent, peut-être plus que la muraille, c'est que les Juifs qui étaient éparpillés se sont rassemblés, souvenez-vous, les uns à côté des autres. Ça aussi, c'est important. Et bien, pourquoi et comment? Eh bien, on va voir maintenant. Sa réussite découle de trois facteurs. Son caractère. On ne parle jamais assez du caractère. Il a mauvais caractère. C'est pas grave, c'est comme ça. Eh bien, moi, je dis c'est grave. Son caractère, c'est sa force à partir du moment où ce caractère, il est formé, il est fait par Dieu. Dieu l'a façonné. Cet homme s'est laissé faire. Cet homme s'est laissé changer. Il s'est laissé modifier. Il avait un caractère, c'était un chef né, mais selon les hommes. Pendant des années, à la cour du roi, comme échanson, il va apprendre à servir. Va servir son roi. Et puis, il va être aussi au cœur de toutes les machinations, de tout ce qui se passe. Il va apprendre tout un tas de choses. Il va apprendre la sagesse. Il va apprendre le discernement. C'est ce qu'il dit. Il a discerné que les autres lui voulaient du mal. Il a discerné qu'ils prophétisaient contre lui. Grâce à cette expérience. Donc, son caractère, sa confiance, une confiance inébranlable. Néhémie était sûr que son Dieu était avec lui. Mais ça, personne ne pouvait rien y faire. Personne ne pouvait échanger. Néhémie, quoi qu'il puisse se passer, souvenez-vous de ce fil conducteur. Immédiatement, Néhémie disait, Seigneur, tu vois, regarde, j'ai besoin de toi, t'es là. Viens, on avance ensemble. Les autres ne le voient pas. Mais ça, c'est la conviction de Néhémie qui change. Et c'est ce témoignage-là qui va permettre à ce que le peuple soit uni. Parce que le peuple va se mettre derrière Néhémie, il va écouter Néhémie. Et il va voir ce que dit Néhémie est vrai. Pourquoi ? Parce que ça vient de la parole de Dieu. Néhémie ne faisait que dire ce qu'il avait vu pratiquer dans la parole de Dieu. C'était ça qui animait Néhémie. Sa confiance et puis aussi son courage. Parce qu'il fallait quand même du courage pour pouvoir se battre. Quand il est, souvenez-vous, quand il y a la raillerie, quand il y a le découragement du peuple, Néhémie, il est là, il est planté devant tout le monde, gouverneur, c'est vrai, mais gouverneur de quoi ? Puisqu'il avait un peuple qui était complètement dispersé et un peuple qui avait les jetons, qui avait peur. Et ils avaient raison d'avoir peur, puisque tous les autres autour vous disaient « on va vous tuer, on va vous tenir la nuit et on va vous tuer ». Ça, c'était une réalité. Alors tout d'abord, je crois que nous avons du travail à faire par rapport à ça. Tout d'abord, le caractère d'un homme ne peut se révéler davantage que dans les moments de crise. C'est vrai. Quand on passe une période difficile, quand on est dans une crise, on voit la réalité du cœur de ceux qui la vivent. Donc un homme est confronté à cette réalité. Pour Néhémie, comme je voulais répéter, je le répéterai encore parce que c'est répété dans Néhémie, c'est Dieu d'abord. Oh mon Dieu, souviens-toi. Ils avaient, etc., etc. Souviens-toi de moi, oh mon Dieu. Regardons les critères du caractère de Néhémie. En premier, son caractère lui venait directement de la sainteté qu'il pratiquait et de sa communion intime avec le Seigneur. Ça, c'est le point fort, mes amis. C'est le point fort de notre réflexion aujourd'hui. Quand les choses vont mal, je commence par aller au pied de la croix et je demande à Dieu de changer mon cœur, de faire la lessive de mon âme, de purifier mon esprit pour laisser le libre champ à celui de Dieu. Constamment. C'est vrai que nous sommes convertis une fois pour toutes, mais notre vieille nature, elle existe, elle réclame ses droits. Constamment, nous avons besoin de tout changer. Parce que, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. J'aime bien ce passage de Romains 12, vous connaissez, 1 et 2, « Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou logique. » C'est une réalité, offrir constamment. Il y a une notion de sacrifice. Notre vie sur cette terre n'est pas de jouir et de profiter de tout, en ouvrant les mains et en disant « Seigneur, fais couler hein, les bons raisins, le miel, le lait, etc. Allez, que je puisse me goinfrer. » Ce n'est pas tout à fait comme ça. Non, il y a cette notion que si nous sommes restés ici sur cette terre, c'est pour témoigner d'une réalité. Merci Evelyne, dans ta longue prière, de nous avoir dit ce que tu vivais dans ton cœur. Parce que c'est important, c'est ce que nous sommes appelés à faire, à témoigner. C'est ce qu'ils ont fait. Regardez dans ce passage de Néhémie, il dit « La muraille fut achevée en 52 jours, verset 16, « Lorsque tous les ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. » Voilà un témoignage. Alors, il n'y a rien à dire. C'était manifeste, ça se voyait, et c'était clair, c'était limpide. Ils avaient passé 52 jours à haïr ces gens qui essayaient de construire quelque chose, à faire tout ce qu'ils pouvaient pour pouvoir les détruire, jusqu'à même vouloir les tuer, et ils n'y sont pas arrivés. Par contre, eux qui étaient les objets de leur haine, eux, ils avaient un Dieu qui les soutenait, et grâce à ce Dieu, ils y sont arrivés. Et vous savez, à cette époque-là, et la spiritualité existait. Il y avait des tas de dieux, des tas de trucs comme ça. Mais les gens étaient conscients que les Juifs avaient un Dieu qui, lui, régnait dans le ciel. D'ailleurs, Néhémie et d'autres sont allés à Jérusalem pour offrir des sacrifices pour eux. Ils leur ont donné de l'argent pour pouvoir faire des sacrifices, poursuivre. Il faut tout changer. Alors les événements nous ont cloués au sol. Nous sommes peut-être des chenilles qui avancent péniblement. Le Saint-Esprit veut changer cela. Debout, notre place, notre forme, notre position, c'est d'être debout. Soyez métamorphosés. Romains 12 nous dit comme ça, soyez changés, hein, soyez, mais le texte dit soyez métamorphosés. Alors vous savez, métamorphosés, ça veut dire exploser littéralement de chenilles, devenez des papillons. Nous sommes cloués, eh bien devenez de splendides papillons. N'oubliez pas que nous vivons dans deux mondes. Le Saint-Esprit ce matin nous appelle à sortir de ce monde pour aller dans le monde spirituel où Dieu règne. Ensuite, le caractère de Néhémie est directement lié au fait qu'il était disposé à se placer sous l'autorité des Écritures. La connaissance qu'il avait de la parole de Dieu l'armait du discernement, et ce discernement l'empêchait d'être trompé par ceux qui se disaient ses amis. Vous savez, c'est peut-être une grande phrase, hein, qui est difficile peut-être à absorber. La réalité, c'est que Néhémie était un homme de Dieu. Donc ça voulait dire qu'il avait assimilé et qu'il était imprégné de Dieu complètement. Et quand il était confronté aux événements, à tout ce qu'il passait, ça passait par ce filtre. Et c'est ce qui lui donnait son discernement. Si Néhémie arrivait à discerner, c'est parce que l'Esprit de Dieu en lui activait tout ce qu'il avait emmagasiné. Et grâce à ça, Néhémie voyait clair. Parce que pour Néhémie, c'était Dieu d'abord. Dans toutes circonstances, peu importe qu'elle soit bonne ou qu'elle ne soit pas bonne. Le caractère de Néhémie était lié à ça. La nourriture spirituelle du chrétien est capitale. Sinon, pas de force. Et c'est le monde physique qui prend le dessus. Et puis, nous voyons enfin que la confiance dont fit preuve Néhémie, il affrontera les obstacles les uns après les autres. Et c'est à cause de la conviction invincible qu'il avait de faire la volonté de Dieu. À Dieu, rien d'impossible. Eh bien, c'est à cause de cette conviction qu'il réussit à rebâtir les murailles d'une ville et à redonner une dignité nationale à un peuple méprisé en 52 jours. Le caractère d'un homme est la dynamique qui produit la confiance. Frères et sœurs, j'insiste beaucoup sur ce fait. Nous ne travaillons pas assez le caractère que Dieu nous a donné. Ce caractère peut nous servir, ce caractère peut même nous déplaire, mais ce caractère façonné, ce caractère travaillé par l'Esprit de Dieu va devenir une force à la disposition de son peuple. Sa foi, Néhémie, remuait les montagnes. Sa confiance en Dieu lui donna le courage de persévérer en dépit de l'opposition autour de lui. Le courage de Néhémie l'aida à réaliser de nouveaux succès. Armé de ce courage, il changea des obstacles en opportunités et les épreuves en triomphe. Ça, c'est le caractère qui fait la différence. Alors, comment appliquer ces caractéristiques à notre vie aujourd'hui? Nous sommes peut-être accablés, accablés par l'année écoulée. Peut-être la maladie nous a touchés, le deuil et les nombreuses épreuves. Ça, c'est la triste réalité de ce monde, du monde humain, du monde physique dans lequel nous sommes, que nous vivons. Mais qu'en est-il de notre âme? J'aime ce psaume 43. Venez avec moi, on va le lire. C'est un petit psaume, hein, c'est pas... Et j'aime bien ce psaume, ça va faire rire ma femme. Psaume 43. « Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu. De Dieu ma joie et mon allégresse, et je célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut Et mon Dieu, pourquoi as-tu battu mon âme ? Bonne question. Qu'en est-il de mon cœur ? Mon cœur est brisé, le monde s'est fait les griffes. Ça ne vous est pas arrivé, ça ? Que le monde se fasse les griffes sur votre cœur, jusqu'à ce que ça saigne, jusqu'à ce que vous ayez mal. Jérémie, un autre passage, et ça s'arrêtera là, hein, c'était juste ces deux passages que je voulais partager avec vous. Jérémie 17, les versets 7 à 10, où Jérémie nous dit comme ça, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel. J'éprouve le cœur, je sonde les reins. » Et puis, il y a les pensées qui s'égarent, se perdent. Voilà l'homme qui se reconnaît dans cet homme égaré qui ne discerne plus. Cela, hélas, m'arrive. Ça m'arrive, je n'arrive plus à respirer. Les angoisses envahissent mon âme et la peur terrasse mes genoux. Ça vous est jamais arrivé ? Moi, je suis un inquiet. Donc, quand le moindre petit truc, ça y est, demandez à ma femme, ça devient un monstre, je respire plus. Mais c'est à ce moment, à genoux devant Dieu, que je répands mon âme. C'est quand Dieu me laisse voir la réalité de mon caractère, qui est un caractère rebelle. Je ne suis pas docile. Alors Dieu m'amène à m'agenouiller devant la croix. C'est dans cette position à genoux que je retrouve le chemin de la repentance et que je peux dire « pardonne-moi car j'ai péché ». Oh ! Je n'ai tué personne. Je me suis contenté de laisser mon cœur écouter le vent du monde. Les mauvaises pensées sont rentrées et je n'ai plus vu que la méchanceté, le trouble et l'amertume a saisi toute mon âme. J'ai oublié la grâce bienfaisante. Ça vous est jamais arrivé, ça ? Alors comment appliquer les caractéristiques de Néhémie à notre vie d'aujourd'hui ? Ben, il faut changer. On nous a dit « tu peux naître de nouveau ». Je l'ai fait, ça marche. On peut recommencer. Sur le chemin, il nous arrive d'être pris par des obstacles, par notre vieille nature. Si vous avez comme moi une nature inquiète, une nature tourmentée, eh bien, à certains moments sur le chemin, vous vous laissez manger. Et puis là, c'est la peur, c'est les angoisses, ça monte. Pourquoi t'as battu mon âme ? Espère en Dieu. Il faut changer. Ça marche, Dieu est amour, il veut nous changer de la vision du monde. Je vais finir. Il veut renouveler notre cœur. Dieu aime même Michel Molière. Alors, c'est moi. Alors, mes amis, j'ai une bonne nouvelle. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Je peux vous assurer que c'est vrai. Parce qu'il m'a pardonné tellement de fois et je suis sûr qu'il va encore continuer. Dieu est miséricordieux et compatissant. Dieu nous aime. Sa miséricorde dure à toujours. N'ayez jamais peur de venir vers Dieu. C'est un vieux pécheur qui vous le dit. Dieu nous accueille. Dieu ne nous juge pas. Dieu nous attend parce que Dieu nous aime. Au plus profond de son regard sur son peuple, Dieu aime. Alors, nous n'avons pas cette perception de l'amour infini. Vous connaissez l'infini ? Vous savez, l'infini, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. C'est compliqué, hein ? Dieu nous aime personnellement d'un amour infini. Ce matin, laissons-nous faire. Dieu veut remplir nos cœurs de son amour. Ne vous inquiétez pas, il y a de la réserve. Il vous connaît. Ce matin, Dieu veut renouveler son peuple. Et ce n'est pas en 52 jours qu'il veut le faire. Avec Dieu, c'est instantané. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez mal là maintenant, vous pouvez déposer votre douleur au pied de la croix. Dieu va la prendre, il va s'en charger. Vous avez du chagrin ? Vous avez de la difficulté ? Vous avez peut-être de l'amertume qui est restée quelque part. Vous savez, ces racines qui vont jusqu'au fond et qu'on n'arrive pas à tirer tellement elles sont profondes, mais qui nous empêchent de respirer. On peut les déposer. On peut demander à Dieu de venir les chercher, de les enlever. Son amour est puissant, il peut faire au-delà de ce que nous pensons. Mes chers frères et sœurs, Demandons à Dieu de nous changer constamment. Change mon cœur, Seigneur, on chante, et purifie-moi. Moi, je rajouterai, apprends-moi à aimer, Père éternel. J'en ai tellement besoin. J'aimerais bien aimer comme Dieu aime. Prions. C'est vrai, Seigneur, s'il y a une chose qui m'a touché, c'est que enfin, quelqu'un m'aimait, et c'était vrai. Mais il ne m'aimait pas comme le monde aime. Il m'aimait sans arrière-pensée, sans aucune restriction. Dieu aime parce qu'il est amour. Voilà. Nous avons tout à gagner, tout à prendre, à découvrir avec Dieu, parce que son amour est au-delà de ce que nous imaginons ou pensons. Et comme on nous a dit ce matin, rien, mais rien, ne peut nous séparer de son amour en Jésus-Christ. C'est une certitude. À nous de connaître la parole, à nous de la sonder, de nous en imprégner, de savoir justement que si nous laissons faire, les mots vont monter eux-mêmes de notre cœur jusqu'à notre tête pour nous rappeler que effectivement, Dieu a dit qu'il nous aimait, et c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Il nous a dit aussi que nous étions un peuple de rachetés, et que nous avions une maison. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes dans sa maison. Et Seigneur, ce matin justement, nous sommes tous rassemblés dans ta maison. Tu en es le maître, tu en es le chef, tu es la tête, c'est toi qui conduis. Nous voulons vraiment te bénir. Nous voulons te louer pour tout ce que tu nous as rappelé, que des hommes ont marché avec cette assurance qu'ils pouvaient se confier en toi, qu'ils pouvaient te laisser faire malgré tout ce qu'il pouvait y avoir comme adversité autour d'eux. Néhémie est l'un de ces hommes qui témoigne que c'était toi d'abord, en toutes circonstances. Il était tellement imprégné de toi qu'il ne pouvait pas respirer sans prononcer ton nom. Seigneur, j'ai tellement de joie à contempler ces récits dans l'Ancien Testament qui nous rappellent que des hommes ont obéi pleinement et qu'ils ont réussi des choses extraordinaires. Parce que justement, ce n'était pas eux qui les faisaient. C'était toi qui les faisais. Ils te laissaient libre d'agir. Aujourd'hui encore, si nous te laissons libre, nous avons la possibilité, non pas de voir ce que nous sommes capables de faire, mais de voir ce que toi tu vas faire. Et je prie pour notre Église que, justement, Seigneur, nous ayons cette liberté de changer peut-être, et de te laisser faire dans ce jour justement d'Assemblée Générale. Nous pouvons effectivement regarder les comptes, regarder comment ça fonctionne, mais ensemble nous pouvons te dire, Seigneur, ce que nous voudrions surtout, c'est que tu diriges notre Église. Et nous savons que tu le fais, mais nous voudrions te redire encore une fois combien nous souhaitons que tu la diriges et que tu la conduises sur le chemin que toi tu as préparé, que nous puissions pratiquer toutes ces bonnes œuvres que tu as préparé d'avance pour qu'on puisse les pratiquer. Et ainsi nous réjouir, comme Néhémie s'est réjoui, et que le peuple autour puisse reconnaître que nous avons un Dieu, le seul Dieu qui existe et qui vit. Je te prie tout ça, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.